c'est prêt. Ésaïe 40, tout le monde. C'est là qu'on s'en va. Ésaïe 40. On a lu le chapitre au complet. On va en lire là juste quelques versets, puis à travers le message, encore d'autres versets. C'est-tu correct, frère, avant que je parle? Puis que... Oui, OK, c'est parti, excellent. Donc, on va lire la fin du chapitre, les derniers versets, parce que ça a rapport avec le thème du mois, puis aussi avec le titre du message que je veux qu'on regarde aujourd'hui. Donc, on peut lire dans Ésaïe 40, à partir du verset 29, « Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Quand ça parle ici de ceux qui renouvellent leur force, l'idée, c'est vraiment c'est d'échanger sa faiblesse pour la force de Dieu. Et on va regarder ça ensemble, mais avant, j'aimerais ça compris. Seigneur, c'est toi l'enseignant aujourd'hui, c'est toi qui convainc aussi, qui révèle ce qui est caché, qui illumine nos cœurs. Donc, Seigneur, on t'invoque. On vient à toi, Seigneur, parce que c'est vain tout ce qu'on peut regarder dans ta parole si ce n'est pas toi, Seigneur, qui l'illumine, qui se sert de ses vérités pour accomplir tes plans bienveillants, Seigneur. Donc, on vient à toi pour te demander d'agir, de faire, Seigneur, ce que tu as planifié avec tout ça. On s'ouvre à toi, Seigneur, pleinement, pour ce que tu as pour chacun de nous, mais aussi comme Église, parce qu'on est membres les uns des autres et on vit ensemble aussi à travers la foi que nous avons en commun, Seigneur. Donc, que ta volonté se fasse, glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin avec des éléments d'introduction, je vous lis un autre passage d'Ésaïe, 26, au verset 2, ça dit « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Donc, on voit ici deux passages qui nous parlent de se confier en l'Éternel. Ici, dans Ésaïe, c'est vraiment une confiance qu'on voit qui fait en sorte qu'il y a un échange qui se passe, comme je disais, ma faiblesse pour la force de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble avec le titre du message, c'est l'échange de la nouvelle puissance. Et les versets qu'on a ici sous les yeux et ceux que je vous ai cités du chapitre 26, nous donnent le fondement doctrinal de c'est quoi la vie échangée. C'est-à-dire, c'est l'échange de celui qui se confie en l'Éternel, l'échange de la foi. La simple foi, ou on peut dire la réponse de la foi, Dieu nous envoie des choses, lorsqu'on répond par la foi, lorsqu'on se confie en Dieu avec ce que lui décide de nous envoyer, bien, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne accès à sa grâce. Parce que sa grâce est là, pleine et abondante, mais on y accède par la foi, c'est le moyen. Et c'est comme ça qu'on découvre le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, au sein même de la souffrance, de l'affliction, de ce qu'on peut vivre. C'est ce qui fait qu'un Paul et un Silas vont chanter en prison. Parce que par la foi, ils voyaient au-delà de ce qui pouvait frapper l'œil. Mais ici, dans Ésaïe, on a commencé, on fait les deux bouts, puis on faisait ça à l'envers, on peut dire. Un message qui commence tout à l'envers. On commence par la fin, on va aller au début. Regardez les premiers versets. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est Dieu qui se manifeste. Puis évidemment, c'est très messianique. Ça nous parle vraiment ici. Jean-Baptiste qui est la voix qui... Il y a deux voix dans ce passage-là, là. Mais la voix ici qui annonce la venue du Messie, puis le Messie qui vient, ben c'est tout accompli en Jésus-Christ, avec hein, son cousin qui l'a annoncé, et lui qui est venu. Et ça, on peut dire, c'est la part de Dieu. Hein, Dieu qui se manifeste, Dieu qui fait ce que personne d'autre peut faire, le surnaturel. La part de Dieu, c'est faire ce que Dieu peut faire, puis que nous, c'est impossible de faire. Notre part, notre accès, c'est la foi. Donc Dieu console. Il est le consolateur. Mais pour expérimenter cette consolation, il faut qu'on se confie en lui. Il faut qu'on se tourne vers lui. Puis là, dans le sein même de ce qu'on peut vivre, on va expérimenter cette consolation. Puis là, je peux parler de tellement d'exemples dans la Bible de gens qui, comme ça, ont eu accès à la vie surnaturelle de Dieu, à sa consolation, à tout ce qui vient de par la bonté, la grâce de Dieu, par la foi. Joseph, quand il était en prison, hein, a vu au-delà, puis Dieu a vraiment fait des choses extraordinaires, et finalement, il a accompli ce que Joseph résume à la fin de sa vie, il a transformé le mal en bien, hein, il a changé cette situation de souffrance en une situation de délivrance. David, à Tsiklag, vous rappelez-vous, quand il arrive dans une ville, il avait été faire des conquêtes. Lui, ça n'allait pas très bien pour lui, parce que là, il faisait des conquêtes dans le pays des Philistins pour Saül qui voulait le tuer. Tu sais, quand tu travailles pour quelqu'un qui veut te tuer, c'est pas un bon employeur. Fait que ceux qui disent que vous n'avez pas un bon employeur, vous irez voir Saül et David, disons que ça allait pire. Puis là, en plus, quand ils reviennent, tout avait été brûlé et saccagé. Et là, il pensait même que peut-être que tout le monde était mort parce qu'il ne restait plus personne. Puis là, les gens commençaient à parler contre lui. La Bible nous dit qu'il s'est tourné, il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu, puis il a repris courage. Et oui, il s'est confié, échangé son désespoir, la lourdeur, peut-être même l'amertume qu'il veut ressentir, puis il l'a échangé pour ce que Dieu avait pour lui. Jérémie, dans sa citerne, dans une citerne qui était, c'était pas un fond sec, là, c'était vaseux, puis c'était du sable mouvant ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, il était comme vraiment pogné là, puis c'est pas un milieu très agréable dans lequel être. Dieu l'en a sorti. Daniel, ses amis, hein, la fournaise ardente, la fosse au lion, on pourrait, comme je vous dis, multiplier les exemples. Mais dans chacune de ces situations, Dieu est intervenu de façon surnaturelle pour délivrer. Pour délivrer ses enfants. Parce que ces enfants-là, okay, les personnes que j'ai nommées là, faisaient partie intégrante de son plan rédempteur. Ils étaient dans la lignée messianique, ils étaient dans l'histoire de la rédemption, qui culmine avec la venue du Rédempteur lui-même, Jésus, qui est l'apogée de cette histoire de délivrance et de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est la délivrance. Son nom même, ça veut dire délivrance. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui va délivrer, sauver son peuple de ses péchés. Jésus, ça nous dit aussi dans Tite que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est quoi cette grâce-là manifestée? C'est Jésus qui est la grâce de Dieu. Jésus aussi a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qui est... Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Et donc, ça s'est culminé comme ça. Et ces gens-là n'ont pas été sans leur récompense. Ils n'ont pas eu la pleine récompense comme nous autres. Ils n'ont pas vu le Messie, mais ils ont pu participer au plan divin rédempteur qui s'accomplissait dans leur vie. Maintenant, connaissez-vous Hébreu? Un mot très important dans Hébreu. C'est le mot « meilleur ». Dans Hébreu, tout est meilleur. Parce que Jésus est meilleur que tout ce qui était les hommes d'avant. Puis un de ces meilleurs-là, bien, c'est quand à un moment donné, ça parle de Aaron, puis tout le système des sacrifices et des sacrificateurs qui étaient temporaires. Puis les sacrificateurs étaient sujets à mourir. Puis là, il fallait qu'ils soient remplacés. Puis il fallait tout le temps répéter les sacrifices. Tout était temporaire et imparfait, OK? Mais on peut lire dans Hébreu 7, ça dit que... Car il est notoire que notre Seigneur, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, ça c'est Jésus, institué non d'après la loi des ordonnances charnelles, mais selon la puissance d'une vie impérissable. La puissance d'une vie impérissable, ça c'était... C'était pas accessible sous la loi avec Aaron. Avec Aaron, c'est un éternel recommencement. C'est un rappel de la mort et du fait qu'on peut pas échapper à la mort. Tandis qu'avec Jésus, ça nous montre que c'est justement au contraire. Il est celui qui nous donne accès à une vie impérissable. Donc, mon message est plein de vie aujourd'hui, plein de grâce. J'espère que chacun, on va le prendre pleinement pour sa part. Et si vous n'êtes pas sauvé, Jésus est la vie. Vous devez vous confier en lui pour avoir la vie, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autres noms qui ont été donnés sous le ciel par lesquels nous pouvions être sauvés. Jésus et lui seul. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est simplement, je vais prendre une expression que, je ne sais pas si en anglais, en français, on l'utilise tant que ça, mais les moyens de la grâce, means of grace. Tu sais, la grâce de Dieu est accessible, mais comment qu'on y a accès? Bon, on va voir deux moyens d'accès à la grâce de Dieu pour justement vivre cette vie échangée. Échanger notre faiblesse pour sa puissance. Donc, deux accès à la grâce de Dieu. Le premier, c'est l'accès de la parole de Dieu. Dans Ésaïe, ici, dans les versets 6 à 11, mais spécialement 7 et 8, là, regardez comment il y a des références à la parole de Dieu. On peut lire au verset 6. Une voix crie et il répond, « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Monte sur une montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. On l'a où, cette bonne nouvelle? Dans la parole, hein? La bonne nouvelle, élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Si on compare ça à d'autres passages, bien, ça ici, ce passage-là est cité dans 1 Pierre, avec l'herbe qui sèche, la parole de Dieu qui demeure éternellement. Mais aussi, ça nous dit dans le psaume, ah, c'est un verset, je pourrais avoir un chocolat, parce que là, je le connais par cœur, psaume 119, 105. Est-ce quelqu'un qui le connaît par cœur? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. OK, connaissez-vous Hébreux 4.12? Je vais vous le dire, Hébreux 4.12. Ça dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, l'accès à la grâce de Dieu par sa parole. Et donc, on constate, quand on regarde... Là, j'ai juste vu quelques petits versets avec vous autres, là, mais on voit dans la parole de Dieu comment Dieu nous a donné sa parole comme un moyen d'accéder à sa grâce. Dieu nous donne accès à sa puissance, à lui, pour le découvrir, pour le connaître, de façon relationnelle, le connaître comme une personne, parce qu'il est une personne, il nous donne accès par sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole... La Bible nous dit que la parole, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de ses voix, c'est la révélation des pensées de Dieu, hein, qui sont bien au-delà encore dans Isaïe, hein, ses pensées qui sont bien au-delà de nos pensées, ses voix au-dessus de nos voix. D'où l'importance fondamentale de le connaître, Dieu, par sa parole. Parce qu'on peut s'imaginer un Dieu qui n'existe pas, mais sa parole nous révèle Dieu tel qu'il est. C'est la révélation de qui Dieu est et de son œuvre. Et là-dessus, je vous rappelle un verset très puissant, deux versets en fait, que Pierre nous donne dans 2 Pierre, chapitre 1. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » On va revenir sur ces versets-là plus tard, mais les plus grandes et les plus précieuses promesses sont celles qui nous révèlent la personne et l'œuvre de Christ, qui est l'ultime accomplissement de la rédemption. Donc, on parle un peu de c'est quoi connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas comme connaître des choses au sujet de Dieu. Il y a des gens qui connaissent énormément de choses au sujet de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Comme un paparazzi peut dire qu'il connaît telle vedette, tel sportif ou whatever, mais ne le connaît pas, jamais pris un café, s'est assis avec. Ben, on peut être un expert de choses sur Dieu, au sujet de Dieu, sans connaître Dieu. Et un des moyens de le connaître, c'est justement sa parole. Et je veux vous donner une couple d'exemples ici, spécialement avec quelque chose qu'on parle pas mal ici à l'Église. Connaître Dieu, pour un chrétien, ça veut dire de faire de lui notre identité. Mon identité, c'est pas ma nationalité, c'est pas mon passé, c'est pas mon péché. C'est pas... Si on est un chrétien, notre identité, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est ça qu'on se dit, je suis un chrétien, j'appartiens à Christ. Je suis racheté, c'est ça mon identité. Et ça, ça serait pas possible sans la parole de Dieu. Et je vous donne des exemples. Vous savez que la Bible nous dit que quand on est sauvé, on passe d'être en Adam à être ensuite en Jésus-Christ. C'est une vérité merveilleuse. On a changé, on n'est plus dans la même sphère du tout. On était dans la mort, on est rendu dans la vie. Notre tête, avant de connaître le Seigneur, la tête de l'humanité, c'est Adam, déchu. Et la chute, la tête de l'humanité rachetée de ceux qui sont enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, on apprend ça par la parole de Dieu. Puis là, on pourrait regarder Romains 6, 2 Corinthiens 5, 17. Hein, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole de Dieu qui nous révèle ces choses. Ça va aussi dans le même sens que notre position en Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, oui, j'ai les pieds sur terre, mais en même temps, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est une vérité qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Et donc, puis là, je vais vous lire un petit passage. Éphésiens 2. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Donc, quand on est en Jésus-Christ, nous sommes déjà dans les lieux célestes, assis avec Christ en lui. Toutes des choses que la parole de Dieu nous dit. Une autre chose, la rédemption qu'on a en Jésus-Christ, savez-vous que ça change quelque chose? Ça change beaucoup de choses, parce que des fois, les gens disent, « Ah, mais qu'est-ce que ça change d'avoir Jésus dans sa vie? C'est quoi? » OK, je vais vous donner une couple d'exemples. D'abord, là, je vous lis 1 Corinthiens 1:30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Ça, c'est juste un début. Je vais donner une liste ici. Je donne ça en rafale, là. Je ne vais pas donner toutes les références, ça serait trop long, mais en Jésus-Christ, lui, il est devenu pour moi, est-ce que je suis maintenant en lui? Jésus, il est ma force. Il est ma sagesse, on chante. En Jésus-Christ, c'est ma sagesse. Il est ma sanctification. Il est ma justice. Il est ma rédemption. Il est ma paix, ma victoire, ma joie, mon espérance. Il est ma plénitude. Il est, puis là, par le fruit de l'esprit, ma bonté, mon amour, ma bienveillance, ma source de pardon, ma patience, mon repos, ma maîtrise de soi, ma liberté, ma douceur. Il est même ma pensée, nous avons la pensée de Christ. Il est ma fidélité, il est mon accès à Dieu. Ça, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est ce que nous avons étant rachetés par le sang de Christ. Et toutes ces vérités-là, OK? Je vais donner, c'est pas exhaustif, là, on aurait pu aller plus en profondeur, mais c'est pour vous illustrer l'accès de la parole de Dieu. Ça nous montre tout ce qu'on est en Jésus. C'est par la parole de Dieu, là, on ne prend pas ça dans le journal ou de quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation. C'est Dieu qui nous a donné ces choses dans sa parole. Mais toutes ces vérités précieuses et grandioses sont les plus grandes et les plus précieuses promesses dont 2 Pierre, chapitre 1, verset 4 nous parle. Pourquoi? Pourquoi c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses? Parce que c'est l'accomplissement, l'ultime accomplissement de ce que Dieu a fait dans son œuvre rédemptrice. De ce que Dieu a accompli en nous et avec nous, lorsqu'il nous a placés en Jésus, lorsqu'il nous a transformés, il nous a transposés de Adam, puis il nous a placés en Jésus. C'est ça les vérités que la parole nous révèle. C'est ça que ça veut dire aussi le connaître. Si vous êtes ici, puis ça sonne tellement étranger, puis complètement à l'autre bout du monde, ce que je vous partage là, peut-être parce que justement vous ne le connaissez pas, parce que la Bible nous dit que pour ceux qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu, ça ne fait pas de bon sens, les vérités spirituelles. Pour ça, ça dit, « Ah, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, avant de le connaître, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » lorsqu'on connaît le Seigneur, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas inventé, c'est pas une religion, c'est Dieu qui vit en nous. Et ça, c'est surnaturel. Et écoutez bien, il y a un beau passage là-dessus, dans 1 Corinthiens au chapitre 2. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Ça, c'est nous autres. Pas en nous-mêmes, mais on est parfaitement pardonné, parfaitement accepté. Pour être dans les lieux célestes, il faut que tu sois parfait, parce qu'il n'y a pas d'imperfection qui rentre au ciel, sinon ça ne serait plus un lieu de perfection, parce que l'imperfection est rentrée. Donc, parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est clair que la parole de Dieu, il y a un côté surnaturel, c'est Dieu qui nous a révélé ses vérités dans sa parole. Et c'est même, on m'en vient vers le prochain point, c'est même lui qui nous les fait comprendre. Alors, je ne vais pas me devancer trop. Mais quand ça parle ici qu'on prêche la sagesse de Dieu, c'est telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ce n'est pas la sagesse des hommes. Ce n'est pas une sagesse dont la source est ici-bas. Elle est divine. Puis vous savez, le thème du mois, c'est une nouvelle puissance. Quand on parle de puissance, des fois, on peut voir toutes sortes de tendances par rapport à ça. Certains vont chercher la puissance par-ci, vont chercher la puissance par-là, vont chercher une expérience par-ci, une expérience par-là. Mais partout dans la parole, c'est clair que la puissance, elle vient par la relation, par le fait de connaître Dieu. La puissance, ce n'est pas encore là une fin. C'est le résultat de connaître Dieu. Et ça nous dit dans la parole que cette puissance-là, cet accès à toute la grâce de Dieu, la puissance, elle est proche, elle est accessible pour ceux qui croient, qui se confient en Dieu. Écoutez là-dessus, Romains 10, au verset 5 à 8. « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Ça, c'est la loi. Faire pour essayer de vivre, mais ça ne marche pas. Okay? C'est toujours un échec. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est pas loin, c'est pas quelque chose de nébuleux et de loin. La parole de la foi, elle est dans nos cœurs, nous, les enfants de Dieu. Et là, je vais amener un point parce que je veux juste être clair. Aussi merveilleuse soit la parole, inspirée, hein, divinement inspirée, il y a une limite. Pas que la parole est limitée, mais notre accès est limité pour toute la grâce de Dieu, toutes les bénédictions, tout ce qu'il a pour nous autres en Jésus-Christ. Son plan, c'est pas qu'on ait ça juste par la parole. Il y a plus, parce que oui, toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Attends, je vais vous le lire. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aussi merveilleux et extraordinaire que ce soit, ça ne serait pas complet sans le deuxième accès à la grâce de Dieu. Non seulement l'accès de la parole, mais aussi l'accès de l'Esprit de Dieu. Parce que juste la parole, il y a des gens encore là qui peuvent être des experts de la parole de Dieu puis même pas connaître Dieu. Ou le connaître très superficiellement. OK? On va parler de ça. D'abord, dans Ésaïe, on est ici au verset 12, et là qu'on était rendu à lire, on va lire, ça fait ceux qui connaissent le chant « Ô notre Dieu », là, c'est inspiré de ce passage-là. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction, qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. » En passant, la réponse à ces questions, c'est personne. Okay? Il n'y a pas personne qui enseigne rien à Dieu, évidemment. C'est des questions rhétoriques. Maman a développé le point ici sur notre accès par l'Esprit de Dieu, notre accès à sa grâce. Je veux vous lire Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. C'est pourquoi, moi aussi, là c'est Paul ici qui parle aux Éphésiens. Donc, il y a eu des nouvelles des Éphésiens, puis là, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que Dieu, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il apprend que c'est des gens qui marchent avec le Seigneur. Les Éphésiens avaient la semence de la parole de Dieu qui avait été plantée en eux, puis elle grandissait. Ah, avec la foi, l'amour, l'espérance, on voit ces choses dans la vie des Éphésiens. Et Paul, quand il apprend ces nouvelles-là, il dit, je prie que ça puisse continuer, ça puisse grandir, mais comment? Par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est comme ça que la semence vivante de la parole de Dieu grandit. Pourquoi? Parce que l'accès à la grâce de Dieu par la parole de Dieu, c'est pas la fin du trajet. Pas la fin de la course. On entend un peu ces temps-ci, ça a couru pas mal, les Jeux olympiques, il y a du courage, comme disait ma femme, beaucoup de courage là-dedans. Puis, c'est pas la fin de la course, pas parce que la parole n'est pas suffisante en elle-même, mais c'est que si on n'avait pas l'Esprit de Dieu nous éclairer, on n'aurait pas les réponses qu'on peut avoir. Il faut que l'Esprit nous guide dans toute la vérité, dans toute la parole qui est la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que la réalité de la vie, là, même si on a la parole de Dieu entre les mains, on n'a pas toutes les réponses aux questions de la vie. Y a-t-il quelqu'un, quand il a ouvert la Bible, il a trouvé c'est qui allait marier? C'est où qui allait aller au collège? C'est quoi la job que vous voulez pour lui pour la prochaine fois? Puis s'il déménage ou non, puis patati et patata, comprenez-vous? Dieu va servir des vérités de la parole, mais c'est avec son Esprit qui va nous guider comme ça dans toute la vérité pour des choses qui, des fois, sont pas toujours aussi clair que, OK, justement, tu sais, pour se marier, OK, on faut pas se mettre sur le même jeu avec des infidèles. Si on veut se marier, on va se marier dans le Seigneur. Mais là, qui, tu sais? Il y a pas mal qui pourraient fitter la catégorie du dans le Seigneur, mais là, qui exactement le Seigneur? Ben, c'est lui qui va nous diriger comme ça. Donc, les deux vont main dans la main et se complètent. Et encore là, c'est vraiment une question de foi. Pourquoi? Dieu a des desseins bienveillants pour ses enfants. Dieu est bon. Et Dieu, avec ce qu'il veut faire avec nous autres, ça fonctionne de cette manière. Il nous révèle beaucoup de choses dans la parole, mais il veut qu'on dépende de lui, Dieu le Saint-Esprit, qui vit en nous, pour être dirigé selon cette parole. OK? Et là, je veux qu'on regarde ça ensemble, parce que là, c'est ça qui va vraiment faire la différence pour qu'on puisse jouir pleinement de toutes ces plus grandes et ces plus précieuses promesses. Parce que Dieu, là, dans sa bonté, là, il brise notre indépendance. Dieu est assez bon de ne pas nous laisser aller à notre égarement. De ne pas nous laisser aller à notre propre sagesse. Ah, comment qu'on connaît les choses de la vie, puis nos techniques, hein, on parlait tantôt de mécanismes de défense, ou on peut appeler ça les techniques de la chair. Parce qu'on a tout ça dans notre petit bagage, dans notre coffre à outils à nous autres, là, pour faire face aux aléas de la vie, puis à l'adversité qui vient par la chute et de vivre dans ce monde-ci. Mais Dieu est trop bon pour nous laisser aller juste de même, parce que ça, c'est destructeur. Puis telle voie paraît droite à un homme, mais c'est quoi l'issue? C'est la mort. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre, avec la parole, mais avec lui-même, comment il nous dirige dans toute la vérité. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Et là, il parlait à des Grecs qui étaient supposément les experts. On a parlé de ça avec Jésus dans Jean 12, il y a une semaine ou deux. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Écoutez aussi, j'aime beaucoup ce verset-là, ce passage-là dans les Proverbes. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tout ça, ça va dans le même sens, des questions rhétoriques qu'on a. Tu sais, les questions sans réponse, là. C'est qui va te donner les réponses à ces questions-là? Comment je vais faire face à la vie? La réponse, c'est va à Dieu, c'est lui la réponse. Dieu ne nous a pas fait pour qu'on. Ok, Dieu, j'ai ta parole, puis là, je m'en vais, puis là, je peux. Merci, je peux m'organiser tout seul maintenant sans toi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment. Dieu nous donne sa parole pour nous montrer à quel point on dépend de lui. Puis l'Esprit de Dieu qui est vivant puis qui est personnel, c'est lui qui va faire ce ministère-là dans notre vie, puis c'est ça qui va nous donner accès à cette grâce merveilleuse que Dieu a pour nous à chaque jour. Ses bontés se renouvellent à chaque matin. Et donc, c'est drôle parce que, tu sais, on voit des questions rhétoriques, là, des versets 12 à 14 qu'on a lus. Mettez ça, puis là, tu sais, ça parle de, tu sais, c'est qui est comparable à l'Éternel, puis qui a pu l'enseigner, puis tout ça. Mais voulez-vous la réponse qui n'est pas la réponse? Regardez les versets 15 à 17. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau, une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. OK, on va arrêter là parce qu'après ça, Dieu continue, mais avec qui voulez-vous me comparer? Mais hey, pour mettre ça en termes modernes, là. Qui sur Internet, qui sur les médias sociaux, qui peut nous... Tu sais, puis dans le fond, on pourrait dire... OK, je ne peux pas nommer des noms, ben ouais, tu sais. La sagesse de Jordan Peterson n'est que néant. Tu sais, on entend toutes sortes de voix de nos jours, là. Pour vous dire autrement dit, là, si on cherche les réponses avec les hommes, c'est la vanité. On va être déçus. Puis c'est ça que Dieu veut faire avec lui, son ministère dans notre vie, c'est nous amener justement à ce qu'on se confie en lui de tout cœur, qu'on reconnaisse que c'est lui la réponse, c'est lui qui a toutes les réponses parce qu'il est la réponse. Parce que à qui on peut comparer Dieu? Hein? On ne peut pas faire une image de Dieu. Dieu est incomparable. Puis, c'est ça. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoutez, là, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je ne sais pas trop comment vous l'expliquer et essayer d'être plus clair, mais je veux dire, la grâce de Dieu est infinie. La grâce de Dieu est merveilleuse. Elle est ouverte à tous. Elle est accessible, mais c'est uniquement par le moyen de la foi. Dieu a désigné des moyens pour avoir accès à cette grâce. C'est par sa parole et par le fait de se confier en lui. Dans se confier en lui qui est personnel. D'où l'importance suprême d'avoir une relation vivante avec Dieu. Une relation de dépendance volontaire et joyeuse. Et là, j'ai une illustration importante qui, j'espère, va nous aider à comprendre. Parce que là, je vais mettre nos deux points ensemble. Avec ce qu'on a parlé sur la... l'accès par la parole, l'accès par l'esprit. Okay? Les deux sont un accès à Dieu, à sa grâce et à la vie en Jésus-Christ. Okay? Pour ici, là, tout le monde qui est sauvé, qui est passé de la mort à la vie, qui connaît ses dieux en esprit et en vérité, qui est de la mort en esprit et en vérité, je vais juste vous donner un point, je pense que ça va vous aider à comprendre pour mettre tout ensemble qu'on regarde dans le message ce matin. Quand on parle de l'accès par la parole de Dieu, je pense que moi, je m'inclus là-dedans, là, beaucoup, moi, pendant des années, j'en ai bénéficié, je m'en suis réjoui, puis je dis, waouh, je découvre mon Dieu. C'est donc merveilleux, puis je veux dire, c'est. Tu sais, quand on connaît Dieu, puis que sa parole est notre trésor, puis c'est irremplaçable. Puis je me rends compte que, aussi merveilleuse et grande soit cette bénédiction, que pendant toutes ces mêmes années, avec cette parole vivante et efficace qui faisait son œuvre vivante et efficace et enracinée en Christ, je me suis rendu compte que autant je pouvais apprécier le ministère de la parole dans ma vie et l'accès que ça me donnait à la grâce de Dieu, j'étais manquant, il manquait un bout. Et celui de l'Esprit de Dieu. Et ça, écoutez bien, je vais vous lire Colossiens 2 et 3, puis après, Colossiens 2, versets 6 et 7, puis après ça, je vais vous lire le verset suivant, puis ça va vous faire comprendre mon point. Ainsi donc, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui ont été données et abondé en actions de grâce. La parole de Dieu, fondée. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ça, c'est un piège, celui de la connaissance du bien puis du mal, celui de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, et ça peut être un blocage à toute la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ça peut devenir la manière par laquelle on est indépendant de Dieu, le Saint-Esprit. On a tout appris, mais on est indépendant. Ça fait un peu bizarre, là. Puis on jouit de la vie chrétienne, mais on n'en joue pas pleinement parce qu'il y a une indépendance par rapport à Dieu, le Saint-Esprit, puis son ministère dans notre vie. Je vous le dis, c'est... Et ça, mes amis, c'est parce qu'on n'est pas connecté au bon arbre. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, ça, il y a beaucoup ça dans la Bible. Il y a beaucoup de bien et de mal, puis des choses, OK, qui sont tous vraies. Mais Dieu ne les a pas donnés justement pour qu'on soit indépendant de lui. Il nous a donnés pour qu'on voit à quel point on dépend de lui, puis que justement, c'est pas notre sagesse qui compte, c'est la sienne. C'est là toute l'idée de l'accès de Dieu par l'Esprit de Dieu. Parce que l'accès de Dieu par la parole de Dieu peut devenir, lorsqu'on comprend ce que je viens de vous expliquer là, ça peut devenir un piège. Ça peut devenir un piège par lequel je ne bénéficie pas pleinement de Dieu, de sa grâce et du ministère de son esprit parce que je suis bloqué avec un moyen qui me rend indépendant de Dieu. La parole devient un moyen, mais je ne vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que je n'apprends pas à vivre en dépendance par l'Esprit de Dieu, que c'est lui qui m'illumine, c'est lui qui dirige mes pas. Comprenez-vous ce que je veux vous dire ce matin? C'est vraiment le point le plus important. Et c'est là qu'est l'échange de la puissance. Parce que, oui, on a tellement de choses merveilleuses par la parole de Dieu. Il renouvelle notre intelligence et tout ça. Mais là, c'est pour vivre l'extraordinaire pleinement. Il faut que l'Esprit de Dieu intervienne puis agisse. Puis celui qui vit en nous, qui s'exprime comme ça, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis comment je vis ça? Par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On peut dire de tout ce que je viens de vous partager là, ça se résume bien avec un des proverbes les plus connus. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ma sagesse versus celle de Dieu. L'indépendance de ma sagesse, comme dans le jardin, versus la dépendance de la sagesse de Dieu. OK, je vous l'illustre. Dieu, donne-moi ta sagesse. Où on peut dire, ça peut être indépendant comme façon de dire. Dieu, donne-moi ta sagesse, puis là, moi, je vais m'en aller avec ça, je vais faire mes affaires. Ça, c'est un énoncé d'indépendance. Mais si je dis Christ est ma sagesse, c'est pas Dieu, donne-moi ta... T'es ma sagesse. Il faut que je dépende de toi, parce que moi, j'en ai pas de sagesse. OK, les deux font le même constat, mais le moyen d'arriver, c'est comme, c'est pas Dieu, donne-moi ta sagesse, puis là, je vais faire ce que j'ai planifié de faire. Dieu, je sais même pas quoi faire. Puis c'est toi ma sagesse, puis le prochain pas de la foi que j'ai à faire, c'est toi qui va falloir qu'il me guide. Je dépends de toi. Puis j'ouvre la parole, puis je m'attends à toi. Ça veut pas à là-bas comme je te pousse, puis on prend ça à gauche, à droite, parce que ça, il y en a qui aussi, c'est un autre extrême. Là. Ah, Dieu m'a dirigé à faire ci, puis ça, mais si c'est pas dans la parole, c'est pas Dieu qui t'a dirigé à faire ça. Parce que Dieu dirige selon sa parole. L'Esprit nous dirige dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-la par la vérité. Si c'est pas dans la parole, c'est pas Dieu qui a dirigé. Bon. Tout ça, je vais amener ça à ce point ici pour conclure. Je vais revenir au verset avec lequel on a commencé dans Ésaïe. Le fameux passage, là, il donne de la force à celui qui est fatigué, verset 29. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils ne se lassent point, pardon, ils marchent et ne se fatiguent point. L'échange de la nouvelle puissance. Lorsqu'on comprend ce qu'on vient de parler aujourd'hui, on voit que l'échange, là, on serait fou de ne pas accepter l'échange de se confier en l'Éternel. Prendre la folie de ma sagesse, ah, moi qui pense que je sais comment, tu sais, puis au Dieu de Dieu, ma sagesse est de la folie. Prendre la folie de ma sagesse, puis l'échanger pour la délivrance, la puissance, la joie de sa sagesse. prendre la tromperie de mes pensées, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort, pour la vérité absolue de Dieu. Je sais pas, à date, moi je trouve que c'est des pas pires échanges. Je pense que ça vaut quand même pas pire la peine. Voulez-vous que je continue? J'ai presque fini, là, mais... Prendre la destruction de ma volonté, alors moi je veux faire ça, j'ai une volonté forte. Ouais, mais si c'est ta volonté, puis si elle va contre celle de Dieu, c'est destructeur. Tandis que la volonté de Dieu, elle est restauratrice, elle est rédemptrice. Échanger l'instabilité de mes émotions. Ah, ça, c'est juste les femmes. Les gars, nous, on est très stables émotionnellement. Prendre l'instabilité de mes émotions pour la sécurité, le roc inébranlable de la disposition de Dieu. Tu sais, Dieu, là, lui, il n'est pas sujet aux aléas de la vie. Dieu, il ne change pas. Ça, c'est sécurisant. Donc, c'est de ça qu'on parle. L'échange d'une nouvelle puissance, une nouvelle vie. Et je vous ai donné beaucoup de paroles de Dieu aujourd'hui. Il y avait beaucoup de versets dans ce que je vous ai amené. Mais je vais terminer avec ceci. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Jésus, en terminant son sermon, comme moi je suis en train de terminer le mien, il a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Si ce que tu entends aujourd'hui, tu y ajoutes foi, tu te confies en Jésus qui se révèle à toi comme étant le sauveur, le seul qui bâtit, tu bâtis sur le roc. Sinon, tu bâtis sur le sable de ta sagesse, de comment toi tu veux faire les choses. Dans le même sens, psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu peut tellement faire mieux. On peut se forcer puis tout ça. Mais Dieu, c'est lui le vrai bâtisseur. Donc, est-ce que tu bâtis ta vie sur le roc de la parole de Dieu? L'Esprit de Dieu aujourd'hui t'invite à lui, t'invite à te confier en lui. Le salut, c'est la différence éternelle entre la vie, la mort ici-bas, la mort éternelle. Ton accès, c'est par la foi. Confie-toi en Dieu pour ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cède à l'Esprit de Dieu qui, en ce moment, te convainc de ton péché. Que Christ est le seul qui est juste et que tu dois te décider, tu dois te confier en lui parce qu'un jour va venir le jugement. Enfant de Dieu, je relis ce passage que je pense que c'est déjà la deuxième ou troisième fois que je lis. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La grâce de Dieu est accessible par les moyens que Dieu nous a donnés, mais le moyen suprême, c'est de le connaître, lui. Parce que l'idée de la parole puis l'esprit, c'est de découvrir lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. C'est ça qu'on a dû dire. Dieu, je te connais. Puis là, tu sais, on ne peut pas dire ça d'une façon parfaite et complète parce que Dieu est infini et on va le découvrir toute notre vie, même dans l'éternité. Mais pour chacun de nous, ses enfants, qu'on le découvre toujours, qu'on le connaisse. Parce que c'est comme ça qu'on a... la vie, la piété, tout ce qui contribue à ces choses, c'est par sa parole, par son esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Embrassons pleinement la grâce de Dieu par les moyens qu'il nous a donnés. On va prier. Seigneur, je te remercie ce matin pour ce temps que tu nous as donné avec Des vérités merveilleuses dans Ésaïe et à toutes sortes d'autres places dans ta parole. Merci que tu es le Dieu du grand échange. Le grand échange de la croix, c'est là que tout commence, échanger la mort pour ta vie, la condamnation du péché pour la libération complète, le pardon complet. Merci que c'est l'échange des ténèbres à la lumière. Merci que c'est ouvert à tous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, qu'on puisse avoir la joie de voir quelqu'un naître de nouveau aujourd'hui. Seigneur, on t'invoque pour ça. C'est toi, Seigneur, qui convainc les cœurs. Et je te prie qu'on voit ta gloire se révéler dans ce sens-là aujourd'hui. Puis pour nous, Seigneur, tes enfants, gens de la maison de Dieu, ta famille, ton corps, ton petit troupeau, Seigneur, on veut découvrir toujours et encore plus quel Dieu merveilleux tu es. Merci que tu nous donnes ta parole et aussi la dépendance à toi pour te découvrir. Oh Seigneur, qu'on chérisse, qu'on trouve ça beau de dépendre de toi. Qu'on voit que c'est la liberté, que c'est la joie, que tout est là. Tu nous as créés pour ça et tu nous as sauvés pour revenir à ce qu'on a perdu à la chute, Seigneur. Merci et merci Seigneur que tu as trouvé bon. Tu as trouvé bon, Seigneur, de nous sauver, de nous ramener à toi, de nous assembler ensemble et on s'en réjouit, Seigneur. On te bénit, on te loue, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prier, vous avez l'occasion de le faire.